Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.
Auditeurs de Radio Calade, bonjour, c'est votre émission mensuelle favorite Poker Menteur. Au micro, comme d'habitude, Patrick Trouilloux, Franck Bonnet est toujours porté disparu. Alors, dernière nouvelle, il serait devenu chercheur d'or dans le Klondike, au nord des États-Unis ou en Alaska, je ne sais plus. J'ai bien peur qu'il ait eu de mauvaises informations. Hein. Le Klondike, c'était autant donc Picsou au 19e siècle, je pense qu'il reste plus d'or. Donc, à mon avis, il va revenir rapidement. Ou alors, c'était une fake news, on ne sait pas. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Si vous avez eu la chance et d'écouter notre émission du mois précédent en podcast ou en direct, vous savez que nous avons parlé d'antisémitisme et de la Shoah. C'était un sujet à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, qui avait eu lieu le 27 janvier. Et donc on a fait ce premier sujet, on a exploré ça en détail avec un invité très compétent, historien, qui est Jean-François, qui est encore avec nous aujourd'hui. Jean-François, bonjour.
Bonjour à tous.
Parce qu'on a décidé de continuer sur notre lancée et de parler maintenant un petit peu de la mémoire de la Shoah, mais surtout de sa grande remise en cause par le grand mouvement négationniste qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc le sujet d'aujourd'hui. Alors pour présenter un petit peu ça, avant que je laisse la parole à Jean-François, le négationnisme, ce sont en gros littéralement les personnes qui nient l'existence des chambres à gaz. Alors, il faut savoir que ces personnes préféreraient qu'on les appelle révisionnistes. Hein, le terme révisionniste, c'est un terme qui désigne plutôt une personne qui n'a pas peur de remettre en cause des vérités officielles. Et quelque part, on pourrait dire un révisionniste, tout bon scientifique doit être révisionniste. Pour autant, entre révisionnisme et négationnisme, il y a un monde d'écart, comme on le découvrira. Partant de là, donc, la question de savoir si ces personnes sont vraiment des révisionnistes ou des négationnistes, et vous allez voir que dans le déroulé de notre émission, on va en avoir une idée assez précise. On va commencer en laissant la parole à Jean-François, qui va nous parler un peu de la mémoire de la Shoah et de tout un tas d'autres choses. Jean-François, nous t'écoutons.
Merci Patrick. Alors, donc, on va commencer à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les nombreuses images de la libération des camps diffusées par les médias évoquent peu la singularité de la Shoah. Et durant une première période, celle qui suit immédiatement la Shoah, les survivants, eux, ne sont reconnus en tant que tels dans aucun groupe, dans aucune portion du corps social.
Ouais, ça c'est vraiment important parce que nous, on est trop jeunes tous, même les vieux comme nous, comme moi surtout, t'es plus jeune que moi, on est trop jeunes pour le savoir, mais à l'immédiate sortie de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il y a une sorte de blackout sur le sort des Juifs et ce qu'ils ont vécu, déjà par manque d'informations.
Oui, déjà.
Et il y a un roman national qui va se construire que tu vas nous expliquer.
Exactement. Donc, les survivants ne trouvent personne pour les écouter, pour écouter leur traumatisme.
On n'a pas envie de les entendre.
Voilà, on n'a pas envie de les entendre. Ils ne sont pas écoutés aux États-Unis, ils ne sont pas écoutés en France. Ouais. Même en Israël, qui est le nouvel état du peuple juif qui est créé en 1948. Mm-hmm. On préfère mettre en avant la figure du Juif résistant du ghetto de Varsovie,
bien sûr,
plutôt que celle du Juif déshumanisé et incapable de réagir face à la barbarie nazie.
Ouais.
Alors, en plus, dans un second temps, le génocide des Juifs n'est pas totalement absent dans les grands procès qui vont se dérouler après la Seconde Guerre mondiale, comme celui de Nuremberg de novembre 1945 à octobre 1946. Cependant, ils sont le plus souvent relégués au second plan, voire même à la marge. Mm-hmm. Les tribunaux retiennent prioritairement les crimes contre la paix, les crimes de guerre.
Ouais.
Ou ceux alors de collaboration également. Pour et justement, là, on va rentrer sur l'exemple de la France, parce que c'est assez exemplaire, cet exemple de la France.
Oui.
Où les persécutions antisémites des années noires sont largement perçues comme relevant de la seule responsabilité de l'occupant, et pas de l'État français.
Voilà, on va tout mettre sur le dos des Allemands, quoi. Hein. Ouais. Tout ça, c'est la faute des Allemands.
Oui, c'est cela. Et donc, il y a 2500 déportés juifs qui retrouvent la France sur les 75 000 juifs qu'il y avait en France avant la guerre.
Ah ouais.
Et finalement, ils reviennent, mais ils sont confondus avec tous les autres revenants, tous les autres déportés, qu'ils soient prisonniers militaires, requis du STO, du service du travail obligatoire.
On en fait une masse indifférenciée, on ne va pas différencier spécifiquement ce qu'ont vécu les Juifs par rapport à tous les autres qui reviennent également.
Et on va d'ailleurs mettre en avant l'image du déporté résistant.
Ouais,
et du coup, le nom de Buchenwald recouvre celui d'Auschwitz, qui est assez inconnu en fait à ce moment-là. Mmh. Par exemple, l'univers concentrationnaire écrit par le résistant David Rousset, qui a été déporté à Buchenwald, touche très vite à un public très large.
D'accord, c'est un témoignage écrit donc sous forme d'un livre, pas d'un roman, mais d'un livre qui va avoir pas mal de succès.
À l'inverse, Primo Levi, qu'on connaît très bien aujourd'hui pour l'étudier dans les classes, au collège ou au lycée.
Ouais, le fameux « Si c'est un homme ».
Voilà, et ignoré, publié en 1947, mais il reste inconnu en France jusque dans les années 1960.
Ouais, il faudra des décennies avant qu'on comprenne l'importance de son texte.
Oui. Et dans la France d'après-guerre, le choix est donc fait par les gaullistes et les communistes, qui sont les deux forces politiques principales de l'époque, de valoriser l'image d'une France combattante et résistante, et donc de construire le mythe du résistant.
Le fameux mythe de la France résistante, en fait.
Oui, là. Plus tard, le film Nuit et brouillard d'Alain René, qui est assez célèbre aussi, de 1956, connaît un grand succès.
Ouais.
Mais malgré tout, il ne souligne pas la spécificité du sort des déportés juifs dans les centres de mise à mort.
Ouais.
Et plus grave encore, c'est que ce film a été censuré par la commission de la censure et impose à Alain René de masquer par un trait noir l'image d'un gendarme français qui monte la guerre dans le camp pour juifs, d'internement pour juifs à Pithiviers,
donc
dans
ça,
le Loiret.
C'est quand même assez énorme quand même. Voilà. Ouais, on est vraiment sur une vérité politique plaquée et il ne faut pas sortir du cadre.
Oui. Ouais. Et c'est un peu la même chose dans la communauté d'historiens, parce qu'on s'intéresse peu à la Shoah, et lorsque les historiens le font, ils entrent par la spécificité du génocide par l'angle des bourreaux, et
pas
par l'angle
des
victimes.
Encore une fois, ils vont attaquer la question en étudiant les nazis, les bourreaux, etc.
Voilà, Léon Poliakov, par exemple, en 1951, avec son Bréviaire de la haine, le troisième Reich chez les Juifs.
Ouais.
Ensuite, il approfondit par Gerhard Reitlinger la solution finale.
Ouais.
Et donc, le trait commun dans ces deux ouvrages, c'est qu'on fait appel d'abord au procès de Nuremberg, mais surtout aux documents rendus publics à ce moment-là. Et ça donne du poids surtout sur les témoignages des bourreaux, mais pas sur ceux des victimes.
Ouais,
on
n'écoute
pas
fait,
les victimes, encore une fois.
Donc, sur cette première période, pour l'instant, le témoignage des Juifs est ignoré, et du Juif victime de la Shoah.
Et il va y avoir un véritable tournant en 1961, avec un procès retentissant en Israël, le procès Eichmann.
Donc c'est là que ça change, et il s'est quand même passé une quinzaine d'années.
Bien largement, oui, tout à fait. Alors qui était Eichmann? Je vais revenir un peu là-dessus. Il est jugé à Jérusalem à partir du 11 avril 1961. C'était l'ordonnateur de la solution finale. Le bureau dont il était le chef, c'est l'Office central de sécurité du Reich. Il organisait la concentration et le transport des Juifs à travers toute l'Europe.
Donc pour la première fois, on aborde franchement le cœur de ce sujet de la Shoah.
Tout à fait. Il a réussi à s'échapper après la guerre grâce à une filière vaticane. Il a été caché sous une fausse identité en Argentine. Et puis il a été enlevé finalement par les services secrets israéliens en mai 1960 en vue d'un procès. Et pour son procès, en fait, il y a toutes les premières fois qu'ils se rassemblent. Pour la première fois, un procès se fixe comme objectif explicite de donner une leçon d'histoire.
Ouais.
Vraiment.
Ouais.
Et pour la première fois, apparaît le thème de la pédagogie, donc d'enseigner vraiment,
expliquer.
Et de la transmission, d'expliquer aux jeunes générations. Et ça marque aussi, enfin, l'avènement du témoin, l'ère du témoin.
Ouais.
Et donc là, pour le procès Eichmann, il va y avoir la déposition de très nombreux témoins. Il y aura 111 témoignages en tout.
On leur donne la parole à un très grand nombre de témoins.
Ça libère la parole en Israël et ça crée même une demande sociale finalement en Israël et à travers aussi le monde, aux États-Unis, en France également.
C'est-à-dire que la parole peut enfin s'exprimer et ça fait un appel d'air, un besoin d'exprimer
ça. Voilà. Il y aura d'autres procès au fur et à mesure dans les années 60 en Europe et en France. Et à Francfort, par exemple, en 1963-65, on va juger pour crime contre l'humanité des nazis ont travaillé à Auschwitz.
Ouais.
En 1964, en France, le crime contre l'humanité est déclaré imprescriptible. Et puis également dans de nombreux pays.
Donc il a fallu ce temps de latence d'une quinzaine d'années
avant
que ce sujet soit franchement abordé.
Oui. Et parallèlement donc à ces premiers pas difficiles de la mémoire de la Shoah, se développe en France son antithèse, le négationnisme.
Et voilà, on va en venir à ce fameux négationnisme et on va le diviser en différentes périodes, d'accord. Et là, tu vas nous parler maintenant de la première période du négationnisme.
Oui, et il concerne vraiment l'extrême droite française pro-fasciste, donc assez classique finalement.
Ouais.
Son grand homme, c'est Maurice Bardèche. Son titre de gloire, entre guillemets, à Maurice Bardèche, c'est d'être le beau-frère de Robert Brasillach. Brasillach qui était un collaborateur patenté.
Le nom est assez connu, Brasillach, qui était, si je ne m'abuse, le rédacteur-chef de Je suis partout, le fameux journal antisémite et pro-régime.
Alors il va être arrêté et fusillé pour collaboration en 1945, hein, du coup. Et Bardèche, lui, il est professeur de lettres à la Sorbonne. Alors il sera brièvement emprisonné pour avoir écrit des articles dans Je suis partout, et justement. Il sera vite relâché, mais il explique que c'est la mort de son beau-frère qui sera le déclencheur de son engagement en politique assez extrémiste.
D'accord.
Il publie en 1948 Nuremberg ou la Traite promise, où il explique que nous sommes tous manipulés par les alliés américains qui ont inventé les camps nazis.
Ouais.
Je dis bien inventé, hein, pour se dédouaner de leurs propres crimes. Bardèche y reconnaît que les juifs ont été persécutés, mais il nie l'existence d'un programme d'extermination.
Voilà.
Voilà. Il ajoute
donc
une information assez grave.
On pose les premières bases du discours négationniste.
Oui, oui, il affirme que les juifs sont les vrais vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, finalement, car l'Holocauste leur permet d'atteindre leur objectif de toujours, avoir un territoire, un État.
Et on retrouve le sens de la nuance de l'extrême droite antisémite.
Et du coup, Bardèche, il va mettre en comparaison les systèmes soviétiques et nazis pour, par ricochet, relativiser l'exceptionnalité des camps nazis. Et il déploie en langage antisémite assez classique, hein, qu'on a pu voir dans durant la dernière émission, comparant les juifs à des manipulateurs, comploteurs, dominateurs, etc.
Tout à fait.
Et la conclusion de Bardèche, c'est quoi? C'est que dans les camps nazis, finalement, on a exterminé que des poux.
Voilà la phrase fameuse qui sera reprise plus tard, comme on le verra.
Alors il sera condamné en 52 à un an de prison ferme et 50 000 francs d'amende pour apologie de crimes et de meurtres. Néanmoins, il n'arrête pas dans ses travaux. Et en 56, il écrit Nuremberg 2 ou Les faux monnayeurs. Alors il change un peu de tactique quand même, puisqu'elle adopte en apparence le discours d'un chercheur et essaie d'apporter une démonstration plus rigoureuse pour une conclusion qui reste inchangée malgré tout.
Ouais, on est sur les premiers pas de quelque chose qui va s'accentuer, c'est-à-dire la posture du chercheur.
Oui. Et il va essayer de créer un mouvement qui s'appelle le Mouvement Social Européen à partir de 51 pour faire un renouveau du fascisme européen.
Ouais, voilà, c'est le néofascisme européen post-Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire les choses franchement. Hein. Bardèche va être un défenseur du fascisme en tant que régime politique.
Et du coup, ça ne change pas trop de ce qu'on a pu connaître dans les années 20 et 30. Et on est donc dans un terrain assez connu et guère déstabilisant au final.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire un milieu de gens convaincus d'avance.
Oui. Et avec la deuxième grande figure, ça va un petit peu changer, puisque avec Paul Racinier, donc ce deuxième grand personnage, c'est un militant socialiste cette fois-ci. Donc là, qui n'est pas fasciste à la base, qui pendant la Seconde Guerre mondiale, en plus, faut torturer et déporter à Buchenwald et à Dora. Il sera libéré en 1945 et déclaré invalide à 100%.
Donc un entre guillemets résistant, hein, qui est passé par les camps de concentration, qu'il a vécu dans sa chair. Et là, surprise, ce monsieur va devenir le deuxième référent de ce premier âge du négationnisme.
Oui.
Explique-nous comment.
Alors comment? Déjà en rédigeant deux livres, Passage de la ligne et Le mensonge d'Ulysse, où il ne nie pas l'existence des chambres à gaz, mais il émet des réserves sur la quantité et le nombre de leurs victimes. Sur la quantité de nombre de chambres à gaz et puis le nombre de leurs victimes.
Ouais, d'accord.
Donc il va rencontrer Bardèche, avec qui il va tout de suite se sentir des affinités surprenantes, vu leur distance politique initiale.
Ah oui, il y a quand même un d'extrême droite et un de gauche quand même. Hein.
En 51, du coup, avec ses thèses très extrémistes, il est exclu de la SFIO, de la section française de l'Internationale ouvrière,
l'ancêtre du Parti socialiste. Voilà. Ouais.
Et du coup, tout au long des années qui suivent, il va essayer de se rapprocher toujours de l'extrême droite en partant des points communs qu'ils ont, c'est-à-dire l'anticommunisme, le pacifisme, le jusqu'au boutiste. Voilà.
Ouais, parce que le pacifisme, il faut bien avoir conscience qu'avant la guerre, le pacifisme est né beaucoup en tant que force politique importante du traumatisme de la Première Guerre mondiale, plus jamais ça. Et après, le problème du pacifisme, c'est qu'il y a un moment, quand on voit les nazis arriver et quand on voit leurs intentions, il y a un moment, il faut se dire, c'est bon, c'est pas avec des fleurs qu'on va les arrêter.
On finit par accepter des choses qui ne sont pas acceptables.
Voilà. Et pourtant, il y a un camp de pacifistes jusqu'au boutiste qui vont dire tout plutôt que la guerre.
Exactement.
Tout, même les nazis.
Et en plus, leur conviction commune, c'est l'antisémitisme, bien sûr. Et du coup, dans les années 60, en 1960, il va faire une tournée des conférences en Allemagne, devant qui? Devant des néo-nazis, forcément.
Oui, donc là, il a trouvé son public.
Il a trouvé son public, effectivement. Et il va argumenter sa contestation du génocide sur trois points principaux. Alors, la critique de la littérature concentrationnaire comme non fiable, le rejet du nombre de 6 millions de victimes juives, et le fait que l'existence des chambres à gaz doivent être considérées avec une certaine précaution. Racinier sera aussi un compagnon de route des mouvements anarchistes dans les années 1960, objet d'une prochaine émission.
Ouais, tout à fait. Et là, on peut dire qu'ils ont été un peu légers, les anarchistes, dans les années 60. Hein.
Oui.
Ça aurait dû regarder de plus près le Racinier.
Et il publie en 1964 Le drame des Juifs européens, où il affirme que le drame en question n'est pas que 6 millions d'entre eux ont été exterminés, comme ils le prétendent, mais simplement de le fait qu'il l'ait prétendu.
Ouais, on voit donc en fait une progression dans son discours entre 1950 où il sort son premier bouquin et 1960 où il sort son deuxième, là, son troisième. Et là, il devient beaucoup plus affirmatif. D'accord. Alors qu'avant, il était quand même dans une forme de prudence dans ses affirmations.
Et du coup, ce premier âge du négationnisme, c'est toujours encore l'extrême droite.
Malgré tout, Racine, il n'a pas mordu hein, sur au-delà de ce mouvement très réduit qui est l'extrême droite pro-fasciste. On reste sur un premier âge qui reste confiné dans un ghetto, en quelque sorte. Alors, on va faire une première pause musicale pour respirer un petit peu. Nous allons écouter Dominica.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillon. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Poker Menteur. Calade. Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9 pour une émission ce mois-ci consacrée à la mémoire de la Shoah et au négationnisme. Émission qui fait suite à l'émission du mois précédent qui était consacrée à l'antisémitisme et à la Shoah. Nous venons d'écouter Dominica, Rendez-nous la lumière. Nous revenons à nos moutons, c'est pas le cas de le dire, mais tant pis. Nous avons précédemment, avec notre invité Jean-François, parlé de l'immédiat après-guerre, comment la France a mis de côté, quelque part, pendant une quinzaine d'années, la question hein, de l'expérience terrible qu'ont vécu les Juifs. Et il nous a présenté également ce qu'on a appelé le premier âge du négationnisme. Et on va arriver à un événement qui, lui, va être un déclencheur d'une sorte de deuxième âge du négationnisme. Et c'est quoi cet événement, Jean-François ?
C'est la guerre des Six Jours.
Voilà, la fameuse guerre des Six Jours.
Qui a lieu du 5 au 10 juin 1967. Et là, ça marque vraiment une nouvelle rupture. Mm-hmm. Alors, cette guerre, qu'est-ce que c'est ? Elle oppose l'État d'Israël à trois de ses voisins, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie.
Ouais.
S'estimant menacé en particulier par l'Égypte de Nasser, et par la nouvelle organisation de libération de la Palestine, l'OLP, de Yasser Arafat, qui est créée en 64, Israël déclenche une attaque préventive.
Ouais.
L'aviation égyptienne est rapidement détruite. Israël annexe la Cisjordanie, la partie arabe de Jérusalem, le plateau syrien du Golan.
Victoire foudroyante. Hein.
Victoire assez foudroyante et rapide, mais victoire surprise finalement.
Oui, oui, personne ne s'attendait à une victoire aussi rapide.
Et ce qui est intéressant ici à comprendre par rapport à notre sujet, c'est que pendant la période d'attente qui a précédé la victoire israélienne, l'angoisse a saisi la population de l'État hébreu. Cette angoisse est vécue sur un mode génocidaire. Les Israéliens pensaient ne plus avoir d'État et ils avaient de disparaître.
Comme si on craignait de revivre, fantasmatique, on craignait de revivre ce qu'on a vécu, quoi.
Tout à fait.
Il n'y a pas si longtemps que ça.
Et cette guerre des six jours lance aussi le deuxième âge du négationnisme, en lien avec le rapport de l'extrême droite à Israël. Alors ce rapport est très ambivalent, puisqu'il y a d'un côté une attitude pro-israélienne, dans Minute et Rivarol par exemple.
Voilà, non. Alors très étonnamment, il y a une extrême droite pro-israélienne.
Parce qu'elle est haineuse des Arabes. Par le fait qu'Israël est perçu comme un rempart donc, contre le communisme également. Parce que je vous rappelle qu'on est en pleine guerre froide à ce moment-là.
Tout à fait.
Et aussi par une certaine fascination pour le peuple juif, sa capacité à créer un État puissant en partant de rien.
Finalement. De rien, oui, tout à fait. Et en arrivant à un niveau d'efficacité, on le voit bien lors de la guerre des six jours, qui est absolument extraordinaire.
Et c'est ainsi qu'on peut lire dans Rivarol en 1965, Israël demeure la seule nation au monde à vivre une synthèse harmonieuse du nationalisme, du socialisme et du racisme. Cela peut paraître paradoxal, c'est ainsi certaines valeurs du national-socialisme abhorrées ont trouvé refuge sur les rives du Jourdain. Là, je cite Rivarol.
Alors Rivarol, c'est un journal d'extrême droite, genre Minute, voilà. Et donc, on voit bien que pour lui, faire une synthèse du nationalisme, du socialisme et du racisme, c'est le top pour un Rivarol. Ouais.
Alors, donc, ça, c'est une vision, mais il y en a une autre. En face, on a une extrême droite anti-sioniste qui décrit un Israël colonialiste, raciste et conspirationniste. On l'a déjà parlé dans la précédente émission, la fameuse conspiration juive internationale.
Bien sûr.
Et les thèses négationnistes sont de plus en plus utilisées par ce camp.
Ce camp anti-sioniste et antisémite aussi, on va dire.
Et ce camp va trouver une voie, c'est celle de François Duprat, militant de l'OAS, l'organisation armée secrète. Il se considère comme un héritier spirituel de Bardèche et il créera en 67 le Rassemblement pour la libération de la Palestine. Il aura des contacts suivis avec des organisations arabes comme le Parti populaire syrien.
Voilà, alors ça c'est une extrême droite intéressante à connaître en tout cas. C'est une extrême droite qui n'a pas hésité à soutenir les mouvements de libération arabe par haine d'Israël et des Juifs.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il publie en 67 Histoire des SS, où il affirme vouloir dénoncer un certain nombre d'idées reçues, comme celle des chambres à gaz, par exemple.
Quand même.
Il est un peu précurseur dans un mouvement qui va se renforcer avec la guerre des six jours. Alors, la cause palestinienne va être, à l'extrême droite, la nouvelle cause à défendre, finalement, ce qui est assez paradoxal, finalement.
Ça va donner un peu de carburant à cette fameuse extrême droite négationniste, qui restait très, 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 très marginale.
Oui. Le problème, c'est que, hormis Duprat, cette deuxième âge du négationnisme va manquer de figures tutélaires, comme l'était Bardèche et Racinier.
Il n'y a pas de figure aussi forte, oui.
Voilà. Alors, Duprat va rentrer au Front National en 1974, et c'est un des rares à tenir ce rôle. Mais clairement, le discours négationniste ne sert que de force d'appoint.
Ouais, c'est ça. C'est pas le discours central. Il sert juste à justifier le combat anti-Israël et anti-Juif.
Et oui, et finalement, c'est le livre d'un étranger, d'un anglais, l'historien Richard Harwood, qui va relancer le débat. Son livre, c'est 6 millions de morts, le sont-ils réellement ?
Parce que vous avez compris, chers auditeurs, que nous centrons notre émission plutôt sur le négationnisme en France. Hein. Si on l'avait élargi à le négationnisme mondial, on s'en sortirait pas, il faudrait des heures d'émission.
Ça serait beaucoup trop long, donc, dans ce deuxième âge du négationnisme, il faut évoquer aussi un autre mouvement nettement plus marginal que l'extrême droite à la Duprat. Nous allons parler de l'apparition d'un négationnisme d'extrême gauche.
D'extrême gauche. Il a existé un négationnisme à l'extrême gauche.
Et en 1970, une librairie qui s'appelle La Vieille Taupe, qui est aussi un petit groupe politique, va développer une interprétation du génocide très particulière. Son leader est Pierre Guillaume. Et la découverte du mensonge d'Ulysse de Paul Racinier va constituer pour lui un déclencheur.
Fameux bouquin de Racinier. Hein. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave.
Et du coup, l'anticommunisme de Racinier, ça ne le gêne pas parce que ça fait écho à son propre antistalinisme.
Oui, à l'extrême gauche, il y a beaucoup de forces antistaliniennes. Hein. C'est très fréquent.
Et en plus, les deux ont un ennemi commun, l'antifascisme. Et oui. Et du coup, pour Pierre Guillaume, le plus récent mensonge idéologique et politique derrière lequel le capitalisme a joué la carte de sa propre conservation de classe pendant la Seconde Guerre mondiale,
c'est l'antifascisme.
Antifascisme.
Tout à fait.
Et c'est un texte publié en 1960 par un ancien dirigeant du Parti communiste italien, Amadeo Bordiga, Gulaga, Auschwitz ou le Grand Alibi, qui va servir de texte de référence à Pierre Guillaume.
Donc on peut remonter, hein. Il n'y a pas que la vieille taupe, il y a aussi quelques traces de ci, de là, d'un début de discours négationniste.
Et la clé de ce texte, c'est que ce ne sont pas les nazis, mais c'est bien le capital avec un C majuscule qui est la cause de l'élimination des juifs. Ce n'est pas l'antisémitisme, mais l'identification des juifs comme inutile à la production par le capital qui a causé leur persécution.
Alors là, on sent bien le truc, mais alors complètement tiré par les cheveux, le discours marxiste pour neuneu, puisque soi-disant on extermine les juifs inutiles à la production, cette blague. Les juifs, tu les fais bosser, ils bossent, ils sont très productifs, donc c'est des conneries ça. Il faut vraiment être complètement attardé pour avoir ce genre de raisonnement. Bref.
Et son deuxième raisonnement, c'est quoi? C'est de dire que le génocide des juifs est utilisé par les démocraties bourgeoises pour justifier leurs propres exactions telles que Hiroshima ou les guerres coloniales, par exemple.
Ouais, d'accord, ça on comprend mieux comme logique.
Il détourne donc le prolétariat de sa véritable mission, ce qui est la révolution, hein, bien sûr, depuis Marx, en établissant une opposition fictive entre les démocraties et les régimes fascistes.
Ouais, c'est ça en fait. Ce qui se passe, c'est que ça les embête énormément que le précédent nazi, quelque part, va en contrepartie donner un label de positif aux démocraties. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse assimiler des régimes totalitaires fascistes et nazis avec les démocraties. Donc il faut obligatoirement banaliser Auschwitz, on n'a pas le choix.
Voilà, il faut banaliser Auschwitz. Pierre Guillaume va retrouver en 78 l'homme qui l'aidera à passer le pas du négationnisme. C'est celui qu'on étudiera lors du troisième négationnisme, un certain Robert Forisson.
Et voilà. Et on en arrive, je dirais, au moment fort du négationnisme. C'est ce qu'on appelle le troisième âge, mais c'est vraiment là que le négationnisme va devenir une affaire nationale en France et va sortir des milieux très marginaux de l'extrême droite antisémite. Donc Forisson, qui c'est? Eh ben, c'est un monsieur qui est né en 1929. Alors, longtemps, il a tenu des discours pour se faire passer pour quelqu'un de très neutre, voire même de gauche de temps en temps, etc. etc. Les enquêtes qui ont été faites sur lui par des historiens montrent qu'en fait, très jeune, il était déjà d'extrême droite. Et en fait, il prend fait et cause au sortir de la guerre. Il est encore assez jeune. Pour qui? Je sais pas, pour l'Europe fracassée, pour la France humiliée? Non, pour l'Allemagne humiliée. Donc on voit déjà le positionnement. Il va bien sûr, vous le comprenez, très vite s'intéresser aux écrits de Bardèche et de Racinier. Donc c'est pas quelqu'un de neutre, d'accord? En 1960, il découvre un article d'un historien allemand, paru dans le journal Die Zeit. Et pour la première fois, cet historien allemand va reconnaître des erreurs dans l'histoire du génocide juif, dues à des erreurs, parce que l'historiographie, on l'a vu, n'est pas très, très, très poussée dans ce domaine.
Encore un peu de source. Et
voilà, exactement. Ouais. Donc, il va expliquer, cet historien, que les chambres à gaz de Dachau n'a pas été utilisée, la chambre à gaz, en tant que telle pendant les années de guerre. Enfin, Forisson, de cet article, il va retenir quoi? Il va retenir, en fait, un point. La chambre à gaz de Dachau n'a jamais été utilisée à des fins d'extermination. Et son raisonnement va aller très rapide. Si c'est le cas pour celle de Dachau, pourquoi n'en serait-il pas de même pour toutes les autres chambres à gaz? Et c'est ça le point de départ de sa recherche. Il va commencer dans les années 60, une sorte de recherche historique. Il va être en contact avec Paul Racinier. Dans les années 70, Forisson devient prof d'université. Attention, c'est quelqu'un d'assez brillant quand même, prof de lettres. Il continue dans les années 70 à travailler sur Auschwitz. Et il va trouver tout un tas d'erreurs qu'il va interpréter comme des erreurs voulues, comme une sorte de complot destiné à mettre en place ce qu'il appelle la plus grande supercherie du XXe siècle. Dans le domaine littéraire, il faut savoir que Forisson était le père d'une sorte de méthode d'analyse qui était assez spéciale, qui consistait à n'analyser les textes que au ras des pâquerettes, comme il le dit, c'est-à-dire ne jamais tenir compte du contexte, qui paraît complètement loup-dingue. C'est sa marque de fabrique, qu'il a réussi quand même à passer un doctorat de littérature sur le Tréamont, de lettres, donc ma foi, ça avait l'air de tenir la route quelque part. Il devient maître de conférences de littérature française du XXe siècle. Où ça? Devinez où? À Lyon 2, pas très loin de chez nous, monsieur, dame, en 74. En 78, son programme de travail annuel inclut le journal d'Anne Frank. Est-il authentique? On sent déjà qu'il a des centres d'intérêt tout à fait particuliers. D'ailleurs, ses collègues de travail dans les années 70 parlent franchement du fait qu'il avait une véritable phobie antisémite. Il voyait des juifs partout, en quelque sorte. Et c'est fin janvier 1978 que se passe à Lyon un colloque organisé par l'Église française, je crois, sur le thème « Église et chrétiens de France dans la Deuxième Guerre mondiale ». Il va prendre la parole à la fin du colloque et il va déclarer « J'ouvre les guillemets ». À la fin de la guerre, toutes les autorités religieuses, en particulier le Vatican, avaient cru devoir déclarer qu'elles n'avaient rien su des chambres à gaz et d'une politique d'extermination ou génocide. C'est tout simplement que ces chambres à gaz, cette extermination, ce génocide, n'avaient jamais existé que dans des imaginations enfiévrées par la propagande de guerre et de haine. Je ferme les guillemets, je viens de citer Forisson, hein, Robert Forisson. Évidemment, il provoque un scandale dans la salle. Les organisateurs refusent de publier son intervention dans le rapport écrit qu'ils font. Alors, Forisson va sortir un petit papier très court, une sorte de tract, où il va rassembler, répéter un petit peu ce qu'il vient d'indiquer. Et en gros, en résumant en deux lignes ses thèses, j'ouvre les guillemets à nouveau. Jamais Hitler n'a donné l'ordre de tuer ne serait-ce qu'un seul homme en raison de sa race ou de sa religion. Les Juifs qui sont morts de fait de guerre. Fermons les guillemets. L'atout principal de Forisson, en fait, c'est qu'il a été un des tout premiers Français à aller fouiller dans les archives d'Auschwitz, d'accord ? Donc, il va vraiment faire un travail où il n'aura pas trop de contradicteurs au début, parce que peu d'historiens ont été faire ça.
Archives balbutiantes encore.
Hein. Et des archives qui sont en cours de construction, voilà. Quelque part. Ouais. Donc, il sait que la façon dont les chambres à gaz ont été reconstruites après la guerre dans les divers camps qui sont ouverts au public ne correspond pas à la réalité. Et il en rend, bien sûr, responsables les communistes, qui avait le contrôle géographique de ces territoires, et aussi, bien sûr, les Juifs, il fallait s'en douter. De ses visites à Auschwitz, il va tirer certaines conclusions, que, par exemple, le local de la chambre à gaz, je ne sais plus à quel c'est, à Auschwitz, hein, tout bêtement, n'était qu'une petite morgue, et qu'elle était enterrée pour la protéger de la chaleur, et qu'elle était pourvue d'une seule petite porte d'entrée et de sortie, ce qui, sur un plan concret, rendait quasiment impossible à ventiler, et puis rendait les manipulations très difficiles. Donc c'est vrai que partant de là, on peut se dire, tiens, c'est quand même bizarre cette chambre à gaz, comment pouvait-elle fonctionner pour exterminer des Juifs ? Il va échanger des courriers avec le conservateur du musée de Schuss, lui poser tout un tas de questions sur les crématoires de Birkenau, par exemple, sur la superficie de la chambre à gaz, etc., etc. Le fait est que sa thèse, elle, de départ, elle est déjà fixée. Sa thèse de départ, c'est les chambres à gaz, comme elles sont présentées sur les plans et comme elles sont vues aujourd'hui, ne peuvent pas avoir fonctionné en tant que telles, c'est-à-dire pour machine à exterminer les Juifs. Et donc, l'extermination des Juifs n'a jamais existé. C'est pour autant une interview dans l'Express, journal national, non pas de Forisson, mais d'un monsieur qui est un ancien commissaire aux questions juives, Louis Darquet de Pellepoix. Et dans cette interview, il va nous ressortir la phrase de Maurice Bardèche, oui. À Auschwitz, on a gazé que des poux. Et là, ça va faire un grand boom dans le débat public. Oh mon Dieu, certaines personnes nient l'existence des chambres à gaz et de la Shoah. Et très vite, les grands médias vont remonter à l'intellectuel, le professeur d'université qui est à l'origine de cette remise en cause, Robert Forisson. C'est le début de l'affaire Forisson. À la fin de l'année 78, le 29 décembre, le journal Le Monde va publier le fameux tract que j'ai évoqué de Forisson, qui donc rassemble et synthétise sa position. Alors, la communauté scientifique, très rapidement, va s'en tenir à un principe. Nous ne débattons pas avec Forisson. Ce n'est pas un scientifique. C'est quelqu'un d'extrême droite qui défend une thèse. Alors, négationniste, le terme n'est pas encore inventé, mais ça va pas tarder. Mais bon, de toute façon, il est placé au centre du jeu médiatique. Hein. L'affaire est faite. Il va avoir des soutiens très inattendus.
Des soutiens de grands intellectuels, comme Noam Chomsky, par exemple.
Alors, Noam Chomsky, je vais y revenir, mais plus près de nous, français, des milieux de gauche libertaire français, comme le frère de Cohn-Bendit
ouais,
qui va un temps le soutenir. Après, il va arrêter les frais quand il va comprendre. Chomsky va se faire feinter, parce qu'en fait, il va envoyer de loin un courrier qui défend la liberté d'expression. Il ne connaît pas plus que ça Forisson. On lui a dit que c'était quelqu'un de gauche, etc. Forisson va intégrer cette lettre en tant que préface de son bouquin sans demander l'autorisation de Chomsky. Et voilà, Forisson fait un coup de maître. Le 26 avril 83, la cour d'appel va le condamner. Mais elle va le condamner en rédigeant un argumentaire qui va vraiment ravir Forisson. Puisque l'argumentaire, il dit quoi ? Il dit que l'argumentation de Forisson est scientifique et que personne en l'état ne peut le convaincre d'avoir menti. Alors là, Forisson, il l'a gagné intellectuellement, même s'il est condamné. Donc cette affaire, ça va être le début d'une sorte d'électrochoc pour la communauté scientifique et historienne.
Pour les historiens surtout, qui vont se remettre au travail finalement.
Eh bien oui, ils vont se dire, mais on n'a pas fait le job quoi. Mmh. On n'a pas fait le job, il faut qu'on s'y mette, d'accord ? Et la Shoah, elle-même s'installe dans le débat public. Jean-François, oui. Tu vas nous dire un petit peu plus. Le grand public va s'intéresser à cette question de la Shoah.
Notamment en France et aux États-Unis. Alors, à travers d'abord des œuvres de fiction.
Ouais.
En 1977, par exemple, aux États-Unis est projetée une série en 4 épisodes, la série Holocaust, qui revient alors à la façon états-unienne, hein, c'est-à-dire c'est très romancé, c'est très hollywoodien, mais c'est quand même un immense succès.
Ouais, tout à fait.
En France, on va avoir un travail plus précis et vraiment un travail d'historien sur lequel l'historien se repose, voilà. C'est le Shoah de Claude Lanzmann.
Un marqueur historique majeur. Hein. La série de documentaires Shoah, c'est
exactement.
Un marqueur historique
c'est
majeur.
C'est impressionnant. C'est un documentaire de 9h30,
ouais.
Réalisé en une douzaine d'années. Mm-hmm. Shoah donne la parole aux acteurs de l'histoire. Alors, ouais. Des acteurs multiples, hein. Les victimes, les persécuteurs et les voisins qui étaient donc témoins de ce qui se passait. Claude Lanzmann a conçu des dispositifs de cinéma qui sont visibles lors des entretiens. Mm-hmm. Et les questions posées aux survivants, aux juifs, cherchent ainsi à les replacer dans l'émotion, voire même l'effroi hein, de ce qu'ils revivent finalement, de leur expérience des camps de la mort. Shoah considère qu'ils sont des revenants et qu'ils détiennent une vérité que le film doit révéler.
D'accord, ok. Alors, par contre, Shoah, c'est toujours fondé sur des témoignages. Or, cette extrême droite négationniste part d'un postulat qu'on développera tout à l'heure, qui est tout témoignage est suspect, voire même pas crédible.
Ouais.
Alors maintenant, on va passer à un autre personnage, toujours dans la lignée de Forisson, en quelque sorte, qui s'appelle Jean-Claude Pressac. Alors, notez bien son nom, parce qu'il est inconnu du grand public, et pourtant, ce monsieur, eh ben, c'est lui qui va mettre en déroute Forisson.
Il est très connu de la communauté historienne aujourd'hui.
Alors maintenant, il est très connu de la communauté historienne. N'empêche qu'au départ, il n'est pas historien, il est pharmacien. Il est pharmacien et au sortir de la guerre, il pense faire une carrière militaire, puis finalement, il renonce. Alors, il décide d'écrire un roman. Mais pour écrire ce roman, il a besoin d'aller à Auschwitz pour s'informer. Donc, il se rend à Auschwitz et il va commencer à travailler à Auschwitz, à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il va y aller en 66, il y retournera en 79. Et petit à petit, à force d'aller à Auschwitz et de poser des questions, il commence à avoir des doutes sur l'existence des fours crématoires. Donc, il pose encore et encore des questions aux conservateurs du musée d'Auschwitz qui commencent à en avoir plein les bottes. Et à un moment, le conservateur, il lui répond « Ah ben non, vous n'allez pas faire comme monsieur Lorisson !» Et Pressac, il dit « Mais c'est qui ce Lorisson ?» De retour en France, il s'aperçoit très vite que le Lorisson en question, c'est un certain Robert Forisson. Donc, il contacte Robert Forisson. Et là, il tombe sur le cul parce qu'il s'aperçoit que ce Robert Forisson, j'ouvre les guillemets, il en savait 100 fois plus que moi, que Pressac, sur la question des chambres à gaz. Et il va donc collaborer avec Forisson. Pressac, c'est quelqu'un qui doute et donc qui va vers quelqu'un qui dit faire un travail scientifique pour savoir le vrai. Donc, il va retourner à Auschwitz, il va continuer à pousser le conservateur d'Auschwitz dans ses retranchements. Comment la chambre à gaz pouvait-elle fonctionner? Il n'y a pas de système d'aération. Et là, je vais citer Jean-Claude Pressac. C'est très important ce passage. J'ouvre les guillemets. Là, Ivasco, le conservateur du musée d'Auschwitz, fut grandiose. Il ne répondit pas, sortit de la salle de consultation des documents où nous nous trouvions, me laissant savourer ma victoire, et revint avec un plan SS, le numéro 1300 du 18 juin 1942, intitulé « Crématoire, évacuation des eaux ». Jamais reçu une telle gifle, au sens figuré bien sûr. Le plan répondait à toutes mes remarques concernant le drainage du crématoire. J'ai conclu un accord moral avec Ivasco pour qu'il accepte de répondre à toutes mes autres demandes. Fin de citation. Ça va durer 2 ans. Pendant 2 ans, il ne va pas arrêter de harceler Ivasco. Il va retourner une 20aine de fois en Pologne. Et sa conclusion, elle est la suivante. Les fours crématoires avaient été projetés au départ comme des installations sanitaires normales. Et ensuite, elles ont été aménagées en centre de liquidation des Juifs. Son travail, le travail de Jean-Claude Pressac, qui est totalement inconnu du monde scientifique officiel, va faire date. Parce qu'il va, le premier, faire un travail ultra technique, ultra rigoureux, d'analyse des plans des camps, d'analyse des chaudières utilisées dans les camps, d'analyse des entreprises qui fournissaient les chaudières. Il va décrire la procédure technique de l'extermination de Suisse avec une précision qu'on avait sans doute jamais connue jusque-là.
Donc il fait un véritable travail d'historien finalement.
Et d'historien technicien. Mmh. Il a des... Alors pourquoi il est pharmacien ? Il a des compétences techniques que sans doute les historiens spécialistes des sciences humaines n'ont pas. Il a donc poussé très loin ses compétences, il a utilisé ses compétences. Donc quand il expose ses travaux à Forisson, figurez-vous que Forisson, il voit très vite le danger. Là, il dit, il va exploser ma thèse. Donc très vite, il va d'abord essayer de l'endormir et de l'occuper à autre chose, mais Pressac va continuer ses travaux et Forisson va être contraint de rompre tous les contacts avec lui. En 82, il échange comme ça par courrier avec Pierre Vidal-Naquet, hein, donc un historien très connu. Oui. Et Vidal-Naquet, recevant la cinquantaine de pages de ses travaux, l'inscrit à un colloque à la Sorbonne qui s'appelle « L'Allemagne nazie et l'extermination des Juifs ». Il va présenter ses travaux pendant 18 minutes et les historiens vont découvrir un amateur qui est en fait un des connaisseurs les plus avancés sur la question des chambres à gaz. Il va ensuite publier son premier ouvrage scientifique aux États-Unis en langue anglaise avec l'aide de Serge Klarsfeld. Je dirais, si l'histoire du négationnisme ne s'arrêtera pas là, malheureusement, du point de vue de la polémique scientifique, l'histoire, elle s'arrête là. En fait, Pressac, il a apporté les preuves détaillées du fonctionnement des chambres à gaz.
Et de l'existence des chambres à
et
gaz.
Et de l'existence. Forisson est battu par Kao. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pressac, c'est un vrai révisionniste. Mmh. C'est quelqu'un qui se fout du politiquement correct. Il va au bout, il cherche. Par contre, il n'a pas d'arrière-pensée. Et donc, à la fin, il trouve. Forisson est un négationniste, Pressac est un révisionniste. Désolé les fachos, les chambres à gaz ont bien existé. Vous voulez savoir comment elles fonctionnaient? Faut lire Jean-Claude Pressac.
Voilà.
On va faire une deuxième pause musicale. On va écouter Noir Désir.
Poker menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker menteur sur Calade 100.9. Ce mois-ci, nous parlons de la mémoire de la Shoah et surtout du négationnisme de la Shoah avec notre invité Jean-François, historien spécialiste de la Shoah. Nous venons d'écouter Noir Désir, Un jour en France, chanson, si vous avez écouté les paroles, de 96, qui parle quand même du Front National, de Jean-Marie Le Pen. Ça tombe très bien. On va aborder maintenant la question du Front National et des pays arabes dans cette thématique négationniste. Vas-y Jean-François.
Oui. Alors le message de Pressac qu'on vient d'entendre par Patrick reste très peu connu du grand public finalement.
Ouais, totalement.
Et pour le grand public, la question du négationnisme continue à peser.
malheureusement.
Du coup, le FN de Jean-Marie Le Pen va peu à peu reprendre le discours négationniste, avec beaucoup d'habileté, car la loi Guesso de Jean-Claude Guesso arrive en 1990, et cette loi Guesso réprime tout acte raciste, antisémite ou xénophobe et crée le délit de négationnisme, qui consiste à contester les crimes contre l'humanité.
Ça va être un moment important, cette loi Guesso, un choix par la France de dire non, ça, c'est interdit, ça on ne le dit pas.
Mais dès 1986, Le Pen qualifie d'historien officiel les Bardèche, les Forissons, Henri Roch. En 1987, il évoque les chambres à gaz comme un point de détail de l'histoire.
Voilà, le fameux point de détail,
Avec le soutien unanime de la presse d'extrême droite. En 1988, il fait son jeu de mots au sujet de l'homme politique Michel Durafour. Il parle de Durafour crématoire.
Voilà, donc ça, c'est vraiment le Pen qui distille ses petites perles antisémites et négationnistes au fur et à mesure des années 80.
Alors, cette provocation de Le Pen s'inscrivent dans le contexte des premières inculpations pour crimes contre l'humanité en France. Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, est inculpé en 1983 et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1987. Principalement pour son rôle dans l'arrestation et la déportation des enfants, des 44 enfants de la maison d'Izieux. Lors du procès, comme pour celui d'Eichmann, de nombreux témoins interviennent. Il y en a 107 en tout, dont les plus connus sont Raymond Braque et Simone Cadoche.
Un procès qui a eu lieu à Lyon.
Un procès assez retentissant, il est très médiatisé. Il est procès filmé, donc on peut le retrouver sur YouTube.
Tout à fait.
Autre procès important, celui de Paul Touvier, le chef régional de la milice dans le Rhône. Arrêté en 89, condamné en 94 à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'exécution d'otages juifs à Rieux-la-Pape.
Toujours dans notre région proche, on va dire.
J'ai choisi d'exemples typiques, Enfin, l'ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde, là cette fois on s'éloigne de notre région géographique, Maurice Papon est jugé, lui, en 97-98 pour son rôle dans la déportation des Juifs de Bordeaux. Il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. Et dans tous ces combats interviennent Beat et Serge Klarsfeld qui jouent un rôle décisif et ils sont soutenus par l'association qu'ils ont créée en 79, les fils et filles de déportés juifs de France. Alors ces procès dépassent la simple question de la responsabilité des criminels. Ceux-ci sont investis par des acteurs juridiques et politiques, par les médias également, par les élites intellectuelles, notamment les historiens qui se remettent, comme vous l'avez dit, à retravailler sur le sujet. Et du coup, on essaie de faire mémoire du génocide des juifs auprès de la population. Surtout par le biais du récit des témoins oculaires, encore une fois.
Donc, si on revient au Front National, on comprend qu'ils vont petit à petit vraiment développer de plus en plus ce discours complotiste sur l'internationale juive, etc., etc. Ils vont évidemment fortement s'opposer à la loi Guesso, on s'en doute bien. Ils vont mener des combats contre l'avortement en faisant des amalgames avortement égale génocide, donc Simone Veil égale Hitler. C'est la rhétorique habituelle du négationnisme. L'extrême droite va rehausser les supposés crimes de ses ennemis pour relativiser ceux des nazis. Va falloir attendre l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir dans les années 2000 pour que la stratégie du Front National change du tout au tout. Elle va complètement laisser tomber cette approche, les obsessions antisémites négationnistes de son père. Elle va partir sur une stratégie de recentrage pour rendre le Front National plus respectable.
C'est pour le
Front National. Concernant les pays arabes, il faut en parler quand même. Ces pays arabes vont être très perméables aux idées négationnistes dès les années 50 parce qu'il y a un contexte de lutte contre Israël qui est permanent et l'argumentaire négationniste est utilisé en permanence comme une arme dans cette lutte contre Israël. On retrouve les protocoles, le fameux faux des protocoles des sages de Sion qui est réimprimé régulièrement dans ces pays arabes. On retrouve des pays arabes qui vont largement soutenir Forisson et encore plus largement soutenir Garodi, etc., etc. Voilà, on va s'arrêter là sur ce troisième âge qui est sans doute le plus important. Maintenant, il faut qu'on passe, si tu le veux bien, Jean-François, à un autre point. Alors, les années 2000, Internet, mais surtout, essayer de réfléchir à comment ça fonctionne, les mécanismes de la pensée des négationnistes et des complotistes en général. Je pense que c'est important de se poser cette question. Et pour y répondre, déjà, il faut s'intéresser au fonctionnement du cerveau. En fait, le cerveau, comment il fonctionne? Le cerveau, naturellement, s'intéresse d'abord... quand il perçoit quelque chose, à ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire qu'il va aller ramener tout ce qu'il perçoit sur du déjà connu, sur de l'existant qui fait partie de sa bibliothèque de perception, plutôt que sur de la nouveauté. Ça, la science nous a confirmé ça. Le cerveau humain privilégie systématiquement les informations qui existent déjà dans notre représentation. Et puis, si vraiment ce qu'il perçoit va se débrouiller pour atténuer l'aspect perturbateur des informations dissonantes. C'est les mécanismes du biais cognitif. Biais cognitif, c'est un truc qui est très drôle. Un exemple assez fleuri mais exact, hein, qui date des années 50, une secte américaine avait prédit qu'un gigantesque raz-de-marée plongerait la Terre sous les eaux en décembre 54. Leur leader, donc, avait dit des extraterrestres vont venir nous sauver, vous inquiétez pas, mais il faut d'abord se défaire de toutes nos possessions, couper nos liens avec le monde, blablabla, etc. etc. Décembre 54, évidemment, il n'y a pas de raz-de-marée. Donc le leader explique, c'est pas grave, c'est la foi de nos disciples qui a sauvé le monde. Les gardiens sont venus sur Terre, les extraterrestres sont venus, simplement ils étaient invisibles. Donc vous les avez pas vus. Seuls les croyants l'ont vu. Donc même les membres de la secte qui l'ont pas vu se sont dit « Putain, je suis pas assez croyant, il faut que je croie plus encore. » Donc les mécanismes du biais cognitif, c'est des mécanismes comme ça. On peut en fait justifier tout avec ce genre de mécanisme. Donc la question qui se pose, c'est comment on propage ce genre d'idées tordues, parce qu'on peut dire « Bon, c'est des groupes de tarés, et puis voilà quoi. » Mais on peut arriver à propager ça. C'est une notion qui va nous aider à comprendre ça, c'est la notion d'amplification incestueuse. J'aime bien ce terme, c'est rigolo. Aujourd'hui, avec Internet, ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu, l'amplification incestueuse. Pourquoi ? Parce que si vous êtes honnête, chers auditeurs, avec vous-même et nous, avec nous-mêmes, on s'aperçoit que sur Internet, on est tous à l'intérieur de bulles. De bulles qui rassemblent des gens qui pensent tous pareil, qui ont les mêmes valeurs. Donc c'est confortable, on est bien. D'accord ? Et donc, en fait, dans ces bulles, ces informations-là, même si elles sont un peu délirantes, tant qu'elles sont conformes à nos valeurs, eh bien, elles vont se propager très facilement. Et la nature assez fluide d'Internet fait que ben, les parois de la bulle, ça passe quand même. Hein, d'accord ? C'est pas aussi fermé qu'autrefois. C'est vrai qu'autrefois, au temps du premier négationnisme, on l'a vu avec Bardèche, c'était dans les milieux antisémites d'extrême droite, pro-fascisme. Bon, ok, il n'y avait quand même pas non plus des cent et des mille de personnes. Ouais. Ça sortait pas facilement à l'époque. Aujourd'hui, avec Internet, ça sort beaucoup plus facilement.
Ça diffuse très vite, oui.
Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que même avant Internet, à la fin des années 70, quand l'Express interview d'Arquier de Pellepoix et quand Le Monde reprend les thèses de Forisson, là, vraiment, il passe la bulle des fascistes d'extrême droite antisémites. Donc, c'est là que ça a été un moment important. Mais aujourd'hui, avec Internet, c'est d'autant plus facile. D'accord ? Donc, un autre élément qu'on pourrait dire pour se continuer à se poser des questions sur les mécanismes de pensée, d'accord, c'est et des chercheurs se sont penchés là-dessus, c'est comment, quelles sont les méthodes que les négationnistes ont utilisées pour construire leur argumentaire. Et la méthode principale, c'est ce qu'on appelle la méthode hypercritique. Alors, la méthode hypercritique, ça consiste à faire quoi ? Ça consiste à prendre des faits exacts, mais assez isolés, et à les monter en épingle. D'accord ? Donc, par exemple, dans les témoignages des survivants, il peut y avoir des erreurs, hein, d'accord, sur tel aspect de leur description des camps de concentration.
À cause de la mémoire, hein, le jeu de la mémoire.
Voilà, évidemment, c'est pas évident, hein, la mémoire n'est pas fiable. Oui. Et grâce à cette erreur, eh bien, ils vont pousser en disant bon, si ça. Ce qu'il a dit est faux, ça veut dire que tout ce qu'il a dit est faux, d'accord ? Et ça veut dire que tout ce que tous les témoins ont dit est faux, d'accord ? C'est ça la méthode hypercritique. Évidemment, dans la méthode hypercritique, il y a un autre aspect, c'est toutes les sources d'informations contradictoires, on les laisse de côté. On ne va évidemment pas les prendre en compte. C'est comme ça que les travaux de Jean-Claude Pressac, qui pourtant vient de chez eux, hein, c'était un collaborateurs de Forisson, sont systématiquement occultés. Les négationnistes n'en parlent pas, parce qu'ils ne peuvent pas en parler, sinon tout s'écroule pour eux. Donc, s'il est prouvé qu'une personne s'est trompée ou a été peu précise quand elle témoignait, eh bien, donc, on va dire que tous les témoignages sont mensongers. C'est un peu la théorie des dominos, en quelque sorte. Et ça permet... par extension ou par ricochet, quelque part, eh bien, d'avancer n'importe quelle thèse la plus farfelue pour offrir des explications alternatives. Donc cette méthode, c'est un élément vraiment important de la pensée complotiste, d'accord ? Il y a un sociologue français qui s'appelle Jean-Bruno Renard qui a expliqué que la pensée hypercritique plus la dénonciation des complots plus la découverte d'une autre réalité, entre guillemets, sont la matrice de ce qu'il appelle les rumeurs négatrices. D'accord ? Donc on est vraiment dans les mécanismes de la pensée complotiste. Après, il y a un autre historien qu'on a déjà cité, hein, qui s'appelle Pierre Vidal-Naquet, qui lui aussi, dans les années 2000, a publié un ouvrage parce qu'il a étudié de près les méthodes de pensée des négationnistes pour essayer de déconstruire un peu ces méthodes. Alors, ce qu'il dit, c'est que les méthodes des négationnistes sont les suivantes. Il y a plusieurs axiomes, en quelque sorte. Un, tout témoignage direct apporté par un juif est un mensonge ou une fabulation. Deux, tout témoignage ou tout document antérieur à la libération est un faux. Ou alors on l'ignore, ou alors on le traite de rumeur. Donc c'est comme ça que les négationnistes ignoraient tout un tas de témoignages des sondeurs commando, par exemple, qui avaient décrit par A plus B comment ça se passait, le fonctionnement des chambres à gaz. Ensuite, suite des postulats des négationnistes, tout document en général qui nous renseigne de première main sur les méthodes des nazis est un faux ou un document trafiqué. Tout document nazi qui apporte un témoignage direct est pris vraiment à sa valeur nominale s'il est écrit en langage codé. Donc s'il y a marqué slash A plus code B plus 3C, ils disent ça veut dire slash A, code B, 3C. Donc ça ne veut rien dire. S'il est en langage direct, par contre, on va l'ignorer ou le diminuer en quelque sorte. Cinquième axiome, tout témoignage nazi postérieur à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'il ait été porté par un procès genre Nuremberg, etc., est considéré comme étant obtenu sous la torture et donc étant nul et non avenu. Sixième axiome, tout un arsenal pseudo-technique va être mobilisé pour montrer l'impossibilité matérielle du gazage massif. Bon, là, par contre, Jean-Claude Pressac est passé par là et a tout fracassé. Et enfin, septième axiome, tout ce qui peut expliquer, mettre en contexte cette histoire est ignoré ou falsifié. La fameuse méthode de Forisson. Surtout, on ne tient pas compte du contexte. C'est bien utile. Comme ça, on laisse de côté le fait que, par exemple, les Allemands qui étaient dans les hôpitaux psychiatriques ont été exterminés entre 39 et 41 et que les responsables de cette extermination vont ensuite exercer leur talent dans l'extermination des Juifs. D'accord ? Donc tout ça, ces éléments de contexte, on ne les prend pas en compte. Voilà, pour terminer... je vais te laisser la parole, Jean-François. Oui. Tu vas nous dire un petit peu ce qui s'est passé dans les années 2000, 80, fin des années 90-2000.
Oui. Oui, on va voir une institutionnalisation finalement de la mémoire de la Shoah. Ça commence avec le discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995. Nouvellement président, Jacques Chirac commémore la rafle du Veldiv. Et là, il reconnaît en fait enfin le rôle de l'État français dans ce génocide.
Ouais, il était temps.
Et donc la Shoah devient porteuse de nouvelles normes juridiques, politiques et morales. On commence à indemniser les victimes, les descendants, avec la mission Matteoli par exemple. On instaure des journées nationales ou internationales de la commémoration, comme tu en as parlé Patrick, le 27 janvier. On institutionnalise par la catégorie des justes, donc ceux qui ont sauvé des juifs. Ouais. On crée des musées mémoriaux, comme le mémorial de la Shoah à Paris en 2005. Avant lui, il y a eu Yad Vashem à Jérusalem ou Washington aussi. On organise des voyages pédagogiques pour se rendre sur les lieux de l'extermination. Donc toujours cette vision pédagogique, enseigner ce qu'était la Shoah.
Aux jeunes générations.
Donc il y a vraiment une fonction éducative là-dedans. Oui. On essaie d'apprendre aux jeunes des valeurs civiques et morales universelles. Ouais. D'autant plus qu'aujourd'hui, on évolue dans un monde globalisé, mondialisé, et on essaie de transmettre une mémoire cosmopolite transnationale. Alors, on a donc un nouveau paradigme à ce niveau-là, et la mémoire de la Shoah devient très importante. Pour autant, on a quand même ce Shoah qui se voit un peu partout. Ouais. Certains trouvent que trop en parler, finalement, appauvrit le sujet. D'autres trouvent qu'il y a une sorte de Shoah business, comme Norman Finkelstein, par exemple, qui trouve que le tourisme mondial de la Shoah, c'est un petit peu trop, il faut arrêter de faire tout cela. Donc, il y a un effet de saturation, finalement, sur la mémoire de la Shoah pour certaines personnes.
Voilà, on en arrive au terme de notre émission. Donc, ce qu'on peut dire, François, merci, Jean-François, merci de ta participation. Tu nous as abattu un gros travail. Le négationnisme, on n'en aura jamais complètement fini, même si sur un plan de la dispute intellectuelle, c'est fini. De toute façon, ils ont perdu, point barre.
L'affaire est pliée.
Il faut élargir ça, et comme on l'a fait un petit peu à la fin de l'émission, à l'action sur les pensées complotistes, sur les mécanismes intellectuels qui permettent de justifier n'importe quoi. Chers auditeurs, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez avancé dans vos réflexions sur ce sujet. On va remercier Mathieu à la technique de son écoute et de sa collaboration. Et aussi.
Poker Menteur. Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.